Avant de démarrer la séance, ce week-end, nous avons appris la mauvaise nouvelle du décès de Madame Séverine Brachaud, épouse de Monsieur DJ Brachaud, qui est un employé dans nos services. Donc, si vous le voulez bien, on va faire une minute de silence. Merci. Merci beaucoup. Le quorum étant atteint, donc nous allons pouvoir délibérer. Je fais la lecture du pouvoir. Donc nous avons Madame Bruna Dana qui me donne pouvoir et Monsieur Axel Smet qui donne pouvoir à Monsieur Christopher Cachoir. Je n'ai pas d'autre pouvoir. Alors je dois désigner un ou une secrétaire de séance. Donc, on fait comme d'habitude, la suivante de ma liste, c'est donc Madame Malika Yayaoui. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. Donc, Malika, secrétaire de séance. Délégation du conseil municipal au maire et au premier adjoint, en date du 8 juin 2020. Donc, je vais laisser la parole à Monsieur Charles Prouveur, directeur général des services, qui va vous donner lecture des décisions directes prises depuis la dernière réunion du conseil municipal.
Alors, décision portant attribution d'un contrat. Le 6 juillet 2020, contrat relatif au contrat d'entretien avec la société Cofrino 6 Parc d'activité de la CESOI à Lambersart pour un montant annuel de 4 315,47 € hors taxes pour la maintenance des équipements frigorifiques de la cuisine centrale pour une durée de 12 mois à compter du 1er juillet 2020. Ce contrat sera expressément reconduit d'année en année avec un maximum de 2 ans, soit 3 ans au total. 6 juillet 2020, contrat relatif au contrat de maintenance d'entretien premium des onduleurs Eaton avec la société Eaton Industrie France SAS à Montbonneau-Saint-Martin dans le 38 est approuvé pour un montant de 4 498 € hors taxes annuelles pour la maintenance de l'onduleur de la mairie et des services techniques pour une durée de 12 mois à compter du 1er juillet 2020, expressément renouvelable d'année en année avec un maximum de 2 ans, soit 3 ans maximum, portant le montant global de ce contrat à 13 494 € hors taxes. 18 août 2020, relatif au contrat portant mission de vérification réglementaire des installations électriques thermiques en ERP, moyens de secours, alarme de protection incendie, triennale du système incendie SSI, équipement sportif à la salle de tennis, salle Eugène Philippe et théâtre René Carpentier à Trie-Saint-Léger, avec l'agence Socotec à Lille Métropole, est approuvé pour un montant total de 3 080 € hors taxes. 18 août 2020, contrat relatif au contrat de maintenance R4437 du 6 août 2020 pour la maintenance des systèmes de sécurité incendie des bâtiments communaux suivants, théâtre des Forges, école primaire Jean Massé, salle des fêtes du centre, école Lucie Aubrec, avec la société Avis Service, située à Plaisir dans 78, est approuvé pour un montant annuel de base de 3 409 € hors taxes, auxquelles s'ajoutent les options suivantes. Complément réglementaire SSI, la maintenance préventive d'un système de désenfumage naturel selon l'annexe G de la norme NFS 61-933 pour un montant de 3 774 € hors taxes. Une prestation optionnelle, la prestation de support technique pour DSI, MSSI pour un montant de 325 € hors taxes par an. Ce contrat est passé pour une durée de 12 mois, à compter du 1er septembre 2020, et sera expressément reconduit d'année en année avec un maximum de 2 ans, soit 3 ans maximum. Le 21 septembre 2020, décision directe d'attribuer le marché lancé en procédure adaptée relatif à l'acquisition de matériel informatique, comme suit. Lot 1, matériel micro-ordinateur écran, attribué à la société Promatech Bourdu, avec un minimum engageant la collectivité 5 000 euros hors taxes, avec un maximum engageant le titulaire 50 000. Lot 2, imprimante, attribué à la société Promotech Bourdu, avec un minimum engageant la collectivité 500 euros hors taxes, avec un maximum engageant le titulaire 10 000. Lot 3, petit matériel, pièces détachées, attribué à la société Mazesoft à Saint-Loup, dans le 33, avec un minimum engageant la collectivité de 500 et avec un maximum engageant le titulaire de 5 000. Lot 4, matériel pour les écoles, attribué à la société ITEC Informatique à Sainte-Catherine-les-Arras, avec un minimum engageant la collectivité de 1 000 euros hors taxes, avec un maximum engageant le titulaire de 20 000. La durée du marché est de 12 mois à compter de sa notification. Les dépenses correspondantes seront imputées sur les crédits ouverts au budget de l'exercice 2020 et suivant aux articles prévus à cet effet. Décision portant prise en charge le 17 juillet 2020 relative à la prise en charge par la ville de Trissalégers des factures du camping Les Bois du Châtelas pour l'hébergement du 22 août au 24 août à Bordeaux au profit de M. Pitavino et Brasseur pour le démontage du matériel camping du séjour ado août 2020. L'hébergement sera pris en charge par la ville pour un montant total de 289,80 €. Les repas seront remboursés sur justificatif selon la législation en vigueur. Décision portant annulation d'un marché. 24 août 2020, annulation par le Pasino de Saint-Amand-les-Eaux du repas des aînés en raison du coronavirus et de ses conséquences. Le marché passé en procédure adaptée, attribué le 5 mars et notifié le 12 mars, pour un montant de 53,18 € hors taxes par personne, est donc annulé. Décision portant approbation d'un marché. 16 septembre 2020, relatif à la fourniture des jouets pour le Noël des enfants tritois, à savoir l'O1 né en 2020 au groupe partenaire Toxini pour un montant unitaire de 30,96 € TTC sur une base de 60. Lot 2 de 1 à 2 ans au groupe partenaire pour un montant unitaire de 15,54 € TTC sur une base estimée à 142. Lot 3 de 3 à 4 ans au groupe partenaire pour un montant unitaire de 6,40 € TTC sur une base estimée à 120. Lot 4, 5 à 6 ans, joué club à Paris pour un montant unitaire de 17 € TTC sur une base estimée à 155. Lot 5, 7 à 8 ans, joué club Paris pour un montant unitaire de 23 € TTC sur une base estimée à 157. Lot 6, 9 à 10 ans, GBC à Catillon-sur-Sambre pour un montant unitaire de 26,83 € TTC sur une base estimée à 140. Et enfin, lot 7, de 11 à 12 ans, SRL Elrich à Reims, pour un montant de 67,99 € sur une base estimée à 130.
Merci, monsieur le DGS. Alors, vous avez tous reçu le compte-rendu de la dernière réunion du Conseil municipal du 30 juin 2020. Nous devons le mettre donc au vote. Tout le monde l'a eu, tout le monde l'a lu. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. Alors, nous sommes destinataires de questions écrites d'ensemble TSL qui seront débattues en fin de séance, hormis celles concernant l'embauche des deux éducateurs sportifs qui sera discutée au moment du vote de la délibération sur la création des deux postes. Jugé normal d'avoir une explication avant le vote sur ce sujet-là. Donc, on en parlera sur la fin, si vous voulez bien. Alors, secrétariat général, adhésion au groupe de commande proposé par la CAPH pour l'achat de papier. Je vais enlever mon masque parce que je ne sais pas si vous m'entendez bien. Information, la commune a adhéré au groupement de commande en 2018. Pour les années 2019 et 2020, on a pu bénéficier par exemple des tarifs suivants, papier A4, 80 grammes, 2,33 hors taxe, la ramette de 500, contre 2,39 que l'on payait précédemment, euros hors taxe en 2018. Papier A3, 80 grammes, 4,13 € hors taxe, la ramette de 500, contre le tarif en 2018 de 4,78 € hors taxe. Donc le fait de faire un regroupement d'achat, ça permet de baisser sur ces consommables, et je pense que ce n'est pas une affaire négligeable. qui est contre cette proposition. Une question peut-être ? Attends, j'ai le micro qui va arriver. Ludwig, s'il te plaît.
Que ce soit un groupement de commandes, c'est très très bien, mais ça pourrait être aussi du papier recyclé. Donc c'est pour cette raison qu'on s'abstiendra sur le sujet.
D'accord. Donc qui est contre ? Ok, abstention, donc 4 abstentions. Merci. Avenant de modification du contrat, risque dommage ou bien ? Information. Le rapport sinistre aux primes est trop favorable à la commune, pour une fois que ça arrive. 1 euro de prime pour 1,94 € de sinistre. Les nouvelles cotisations passeront à 15 594,65 € contre ce que l'on payait en 2020, 12 209,45 €. La franchise relative au choc de véhicules terrestres à moteur est portée à 3 000 contre 1 500 € en 2020. Alors, je me suis quand même posé la question en disant, mince, pour une fois qu'on bénéficie d'un tarif avantageux avec les assurances, c'est quand même dommage de ne pas en bénéficier. Mais il y a des règles, il y a des choses qui feront que c'est rediscuté. Et c'est pour ça que nous sommes obligés de le repasser au conseil municipal. Pas de questions sur le sujet ? Oui, Christophe ? Ludwig, merci.
Juste une explication technique, peut-être Charles, enfin tu verras bien.
Oui, si... j'en prie.
Comment un contrat d'assurance peut-il être déficitaire ? C'est une question que je me pose.
Comment ? Christophe pose la question, comment il peut être déficitaire ?
Comment le résultat peut être déficitaire sur un...
pour
un
l'assurance contrat d'assurance ? Ouais. Micro.
Et donc, d'où l'augmentation de la franchise portée à 3 000 €.
Alors, qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. Gros dossier, la Chambre régionale des comptes. Débat sur le rapport d'observation définitif pour la période de 2013 à 2019. Alors, une information sur le sujet. Le contrôle de la CRC a été ouvert le 3 juillet 2019 et l'entretien de fin de contrôle a eu lieu le 6 décembre 2019 avec l'ancien maire qui était M. Norbert Chessu. La Chambre a fait des recommandations de régularité et de performance. Pendant le contrôle, deux rappels aux droits ont totalement été mis en œuvre, deux sont en cours et deux ne sont pas mises en œuvre. Les deux recommandations dont la mise en œuvre est en cours, je vous en parle, donc il s'agit du rappel au droit numéro 2, établir, leur question c'est celle-là, enfin leur attention, vous attirez notre attention, établir un inventaire physique et comptable conformément aux dispositions de l'arrêté du 23 décembre 2019 relative à l'instruction budgétaire et comptable M14, tome 2, titre 4, chapitre 3. Notre réponse par rapport à ce rappel, les services financiers travaillent avec le percepteur sur ce sujet afin d'établir un inventaire physique complet. Lorsque ce travail sera déterminé, l'inventaire comptable sera intégré dans l'état de l'actif dans le logiciel comptable de la ville par notre prestataire GFI. Rappel au droit numéro 3. Leur questionnement, corriger la pratique des restes à réaliser et ce conformément à la définition fournie par l'article R2311-11 du Code général des collectivités territoriale. Ce que je peux vous dire sur le sujet, dès la fin de l'année 2019, la pratique des restes à réaliser a été corrigée suite aux recommandations de la Chambre. Maintenant, les deux recommandations non mises en œuvre. Il s'agit de rappel au droit numéro 4. Ils disent mettre fin au régime dérogatoire de temps de travail conformément à l'article 47 de la loi numéro 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique. La loi numéro 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique met un terme au maintien à titre dérogatoire des régimes de travail mis en place antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 3 janvier 2001 relatif au temps de travail dans la fonction publique territoriale. En conséquence, la collectivité territoriale et établissement public ayant maintenu un régime de travail dérogatoire dispose d'un délai de 1 an à compter du renouvellement de leur assemblée délibérante pour définir, dans les conditions fixées à l'article 7-1 de la loi numéro 84-53 du 26 janvier 1984, les règles relatives au temps de travail de leurs agents. Ces règles entrent en application au plus tard le 1er janvier suivant leur définition. Le nombre total de congés par agent doit respecter la réglementation en vigueur, 25 jours plus 2 jours de fractionnement. Le temps de travail annuel correspondant sur la base de la durée hebdomadaire de 35 heures doit être de 1607 heures. Recommandation unique, se rapprocher de la communauté d'agglomération pour organiser le transfert obligatoire des personnes de la médiathèque. La précédente gouvernance de la CAPH ne voulait pas transférer le personnel de la médiathèque. On attend maintenant les décisions de l'aglo suite à l'installation des nouveaux élus. Bon, c'est tout des textes, hein. C'est bon pour tout le monde. Finances communales. Les charges à caractère général ont diminué de près de 30% de 2013 à 2018, soit de 1,75 million d'euros. Cette réduction régulière a concerné la plupart des postes de dépenses, notamment les achats, les déplacements, les assurances, l'entretien et les réparations. La commune a également fait l'effort de maîtriser ses charges de personnel qui se sont réduites de 4,2% de 2013 à 2019. Compte tenu de l'absence de souscription d'emprunts nouveaux depuis 2013, l'encours de dette a diminué pour s'établir à 3,29 millions d'euros fin 2019, soit 518 euros par habitant, contre 821 en moyenne pour les communes comparables. La capacité de désendettement de la commune s'est baissée à 0,8 années en 2019 contre 2,3 années en 2013. La moyenne des communes de 10 000 habitants est de 4,2 ans. Ressources humaines. La commune a entrepris depuis plusieurs années une démarche de maîtrise de ses effectifs qui sont passés de 243,68 équivalents temps plein en 2013 à 203,2 équivalents temps plein en 2019. Les points négatifs que l'on peut retenir. Finances communales. Les prévisions de dépenses figurant au budget primitif et présentés au conseil municipal doivent mieux refléter la réalité des projets. Actuellement, la commune majore indûment les dépenses pour équilibrer les importantes recettes dont elle bénéficie. Et ça, c'est vrai qu'on essaie d'y travailler au plus près. Ressources humaines. La Chambre a également constaté un certain manque d'expertise interne et de rigueur dans l'administration du personnel, qui s'exprime notamment par de nombreuses erreurs dans la tenue des bulletins de paye, l'absence de déclaration fiscale d'un logement de fonction ou encore l'attribution de primes régulières ou insuffisamment justifiées. Suite aux observations de la Chambre, la commune rectifie ses erreurs. La commande publique. La commune de Trissin-Léger ne dispose pas de services ni d'expertise dédiés en interne à la commande publique. La responsabilité des procédures incombe à chaque service à l'origine du besoin, sans aucun contrôle interne sur leur conduite. Cette organisation n'offre pas de garantie suffisante quant à la bonne exécution des procédures de marché public. L'analyse d'un échantillon de marché a confirmé un manque de rigueur concernant notamment la formalisation de l'estimation initiale des prestations, la transparence des critères d'analyse des offres et leur respect, la motivation de l'analyse des offres, la signature des marchés en bon de commande. La collectivité devra mettre en place une organisation interne assurant un contrôle suffisant des procédures de mise en concurrence par une autorité distincte de celle conduisant l'opération ou la prestation. Donc, on ne peut pas être plus transparent. Vous avez tous les dossiers dans les mains et point positif, point négatif. On a pris l'essentiel de ce qui se disait dans ce rapport. Est-ce qu'il y a des questions sur le rapport? Oui, Nathalie, attends, le micro arrive.
Alors, on n'a pas fait exactement la même lecture du rapport, il me semble. Pour nous, c'est un rapport affligeant pour notre ville. On s'attendait certes à ce qu'il y ait quelques erreurs, quelques irrégularités, hein, c'est normal, mais on n'a jamais pensé à autant de rappels à la loi. Le rapport atteste que la ville est dotée d'une situation financière confortable, puisque elle bénéficie d'importantes recettes provenant de l'implantation de plusieurs grands groupes industriels sur notre territoire. La ville est également dotée d'effectifs communaux conséquents, puisque même si les effectifs baissent, le taux d'administration reste élevé à 34,3 agents pour 1000, soit plus du double du taux moyen constaté pour cette strate de communes, qui s'élève à 14,8 agents pour 1000. Donc voilà, ce sont les atouts de la ville. Hein. On a une situation financière confortable et des effectifs conséquents. Du coup, on s'interroge et on se demande, bah, toutes ces richesses, est-ce qu'elles sont mises au service de la population? Est-ce que la municipalité a mis à profit cette manne pour mener une politique progressiste et innovante permettant à la ville de se développer? Que nous dit le rapport? Le rapport constate d'abord une majoration excessive des prévisions budgétaires qui altère la sincérité des prévisions. C'est ce qui est écrit, je le cite. Que faut-il comprendre? Eh bien, il apparaît que la ville possède depuis plusieurs années un excédent significatif des recettes sur les dépenses. Aussi, pour masquer cette anomalie, parce que c'est une anomalie, on prend la décision d'inscrire des dépenses artificiellement majorées. On élabore des projets fantômes, c'est-à-dire on budgétise des projets dont on sait qu'on ne les réalisera jamais. De la sorte, on majore les dépenses pour équilibrer illusoirement les importantes recettes. Bref, nos élus nous disent qu'ils vont faire alors qu'ils savent très bien qu'ils ne feront pas. Et ils ont laissé, on a pu le constater, hein, ils ont laissé notre ville s'enfoncer dans un marasme, offrant à la population, alors certes c'est vrai, un cadeau de fête des mères, des jouets aux enfants à Noël, un bon gueuleton aux anciens, histoire de masquer leur incapacité, finalement, à mener un projet politique répondant aux besoins véritables de la population, qui sont pourtant flagrants, parce que le rapport note que la population, dans sa grande majorité, a des revenus modestes. Donc, elle a forcément des besoins. La Cour des comptes pointe un manque de planification et de programmation doublé d'un manque d'expertise et de compétences du personnel. La faute à qui? Alors certainement pas à ce personnel qui est en place, non. La faute est à ceux qui les ont mis là sans se soucier de savoir s'ils avaient les compétences requises pour tenir le poste. à force de nommer non pas les plus compétents, mais les plus conciliants sur des postes à responsabilité, on en arrive à une situation aussi désastreuse que celle-là. Parce que vraiment, le rapport insiste sur un manque d'expertise de certains responsables. Le rapport parle, je le cite, d'une insuffisante maîtrise, notamment dans les services de comptabilité et des ressources humaines, où le rapport pointe de nombreuses erreurs dans les P et les notes de frais. Vous en avez parlé d'ailleurs. Ce manque de compétences des techniciens en place, eh bien, forcément, ne va pas dans le sens de l'intérêt de notre ville. Nous avons les moyens de nous développer, on l'a dit tout à l'heure, on a de l'argent, on a des effectifs, des ressources humaines. Bref, on a les moyens de doter notre ville des meilleurs outils, mais nous manquons de personnes avec une expertise suffisante et surtout avec l'envie d'élaborer peut-être et de gérer des projets ambitieux pour notre ville. À Tri, finalement, quand on lit le rapport, eh bien, c'est la prime au moins faisant et au moins disant. Dès que quelqu'un montre l'envie ou commence à prendre des initiatives, eh bien, on l'en dissuade, et ça, on l'a déjà remarqué. Par contre, on ne manque pas d'imagination quand il s'agit de servir des camarades ou bien d'autres. Par exemple, sur un poste de catégorie A, on n'arrive pas à trouver le bon profil parmi la vingtaine de candidats qui se présentent. Alors on est contraint d'embaucher un agent de catégorie B qui doit être doté certainement de qualités exceptionnelles pour avoir coiffé tous ses concurrents au poteau. Donc, on vous entend déjà, Monsieur Savary, dire que ces pratiques datent de l'ancien mandat et que vous n'en portez pas la responsabilité. Ce n'est pas tout à fait vrai. Vous étiez en place à cette époque-là. Alors là, l'institution vous demande de redresser la barre, sous peine de vous retrouver sous le coup de la justice, ça aussi, c'est clairement noté. Maintenant, on espère que, comme vous avez semblé le dire là, que vous romprez avec ces mauvaises habitudes. Alors, vous vous êtes réclamé de la filiation avec le maire précédent à nombreuses reprises. On espère que ce rapport amènera des changements notables dans la manière de gérer les affaires à la mairie. En tout cas, nous, on espère que ces pratiques cessent et qu'on mette tout en œuvre pour servir le bien commun à Tri-Saint-Léger.
Alors, le fait de parler à ma place, ça me pose problème parce que vous faites la question et la réponse à ma place. Maintenant, bon, on a bien compris où vous voulez en venir. Hein. C'est toujours du négatif. Il n'y a jamais quelque chose de positif. Ça, c'est peut-être le rôle de l'opposition qui est destructif, mais non constructif. Maintenant, j'ose espérer que le personnel communal pourra entendre vos propos et ils feront leur propre analyse par rapport à cette discussion. Donc, je ne mets pas au vote, hein, ça. Je ne mets pas au vote. Excusez-moi, le micro.
Merci. Justement, par rapport à ces préconisations qui sont recommandées pour le personnel municipal, avez-vous réfléchi déjà à une modalité de présentation de ce que recommande ce rapport par rapport à la légalisation des congés ? Est-ce que vous avez prévu une communiquée de les informer, parce que l'annonce risque d'être un peu abrupte, quand même. L'annonce risque d'être un peu abrupte.
À un moment donné, il faut aussi respecter ce que la Cour des comptes vous dit, donc il va falloir l'expliquer au personnel, bien sûr. Donc, mais maintenant, ce n'est pas les élus en place qui ont décidé de faire ces changements.
On est d'accord.
Non, mais derrière, je vous vois déjà venir avec la polémique que vous aimez bien faire, donc je vous signale tout de suite que c'est une décision de la Cour des comptes, et à un moment donné, on doit respecter ce qu'on nous demande.
Ouais, j'ai cru comprendre que vous n'aimiez pas qu'on parle à votre place, mais là, vous êtes en train de faire exactement la même chose à mon égard. Je n'imagine rien du tout.
Votre impolitesse, j'agis pareil.
Si ça devient compliqué de poser des questions, on n'en a pas fini. Parce qu'il y a une autre chose aussi par rapport à ce besoin de sincérité sur les comptes budgétaires de la commune. Est-ce que vous envisagez de réagir comment ?
Comme j'ai déjà dit, au niveau aussi, ça parle des finances, tout est discuté en commission finance, dans d'autres commissions. Donc à un moment donné, si vous avez des choses à dire, ben, n'hésitez pas, hein, c'est le lieu pour le faire. Maintenant, on peut construire aussi ensemble, mais ça, j'ai un peu des doutes là-dessus. Tout ce qui nous est reproché, sachant qu'il n'y a pas que du négatif, mais on retient toujours bien sûr le négatif, mais il y a des choses pour lesquelles on sait qu'on doit s'améliorer. Par contre, votre jugement est un peu sévère et je ne l'accepte pas.
Non, notre jugement n'est pas sévère. Il se veut juste refléter la réalité. Nous sommes d'accord qu'il y a effectivement du positif, mais cela n'exclut pas l'obligation Merci. De présenter le négatif pour que les choses puissent évoluer dans le bon sens.
Mais on est clair hein, dans les discussions. On connaît nos points faibles, nos points forts. Maintenant, c'est sûr qu'on ne peut que s'améliorer. Mais c'est justement par ces contrôles qu'on peut avoir des expertises voilà. Et c'est comme ça qu'on arrive à se corriger, à se rectifier. Mais maintenant, dire que notre personnel est incompétent ou n'ont pas la qualification pour, ça, je ne peux pas l'accepter.
Mais c'est écrit dans le rapport. Hein.
C'est un rapport.
Bon, de toute manière, la population aura les données de ce rapport et elle sera juge. Nous, on n'est pas ici pour polémiquer gratuitement. On a autre chose à faire. On est là pour débattre. Et justement, il faudrait peut-être accepter ce débat et regarder les choses telles qu'elles sont pour qu'on puisse avancer. Parce que là, moi, ce que je remarque, c'est que vous êtes dans le déni. Et ça m'inquiète.
Bien. On peut passer aux affaires financières, services financiers. Alors, contribution au fonctionnement du comité des âges du pays tritois. Exercice 2020. Information. Depuis le 13-10-1972, la commune de Trissin-Léger a adhéré au syndicat intercommunal à vocation multiple, dit le CIVOM, qui est devenu au 1er janvier 2015 le syndicat intercommunal à vocation unique, le CIVU, et a pris le nom du comité des âges du pays tritois. Dans les statuts approuvés par le conseil municipal de la ville en date du 4 novembre 2014, il a été mentionné « Les communes adhérentes participeront aux dépenses à inscrire au budget du CIVU, comité des âges du pays tritois, pour un montant qui est déterminé annuellement par le comité syndical de la façon suivante. Contribution annuelle du budget pour le fonctionnement. Une participation basée sur une valeur financière exprimée en euros qui multiplie le nombre d'habitants de chaque commune adhérente et les amortissements et les intérêts d'emprunt répartis comme suit. 50% de la charge du budget du CIVU, comité des âges du pays tritois, 50% à la charge des communes, dont 25% répartis en fonction du nombre d'habitants de chaque commune adhérente et 25% répartis en fonction du potentiel financier de chaque commune adhérente. Ça, c'est pour la partie fonctionnement. Pour la partie investissement, une participation basée sur le remboursement du capital des emprunts répartis comme suit. 50% à la charge du budget du CIVU, 50% à la charge des communes dont 25% répartis en fonction du nombre d'habitants de chaque commune adhérente et 25% répartis en fonction du potentiel financier de chaque commune adhérente. La commune prévoit chaque année les crédits à l'article 65548, participation, mais doit également prendre une délibération de principe pour liquider la dépense au vu du titre de recette adressé par le comité des âges du pays tritois, soit contribution 2020 au fonctionnement, prise en charge partielle des amortissements 2020. Ma question, êtes-vous favorable sur la prise en charge de la participation du montant de 22 228,50 €? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. Contribution au fonctionnement du comité des âges tritois exercice 2020. êtes-vous favorable sur la prise en charge de la participation du montant de 10 059,62 euros? Combien ? 1059, pardon, 1059,52 euros et non 10 000. Qui est pour ? Enfin, qui est contre, pardon, on peut se faire dans ce sens-là. Qui s'abstient ? Merci. Alors, association sportive CET Athlétisme, subvention exceptionnelle. Je vais laisser la parole à monsieur Robert Lagache, adjoint de cette commission. Sachant que ceci a été discuté lors des réunions de la réunion de commission.
Voilà, monsieur le maire. Donc, l'association sportive CET Athlétisme, donc une subvention exceptionnelle. Une demande a été faite, bien sûr, pour un déplacement en championnat de France. Ils étaient 11 athlètes qualifiés. Et donc, apparemment, la municipalité prend 30% les frais d'engagés dans les déplacements. Je reviens sur les mots de monsieur le maire. Ce dossier a été travaillé en commission des sports le jeudi 2 juillet. Il y a eu un avis favorable. Voilà.
Merci, Robert. Donc, qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. Décision modificative numéro 1, budget ville 2020. Pardon. Petit rectificatif au niveau de le vote, madame. Où est-ce qu'elle est ? Allos, Nathalie ? Tu ne dois pas prendre part au vote. Comme tu fais partie de l'association. Ouais. Donc, on modifie. Donc, une personne qui ne prend pas part au vote, c'est Nathalie. Hein ? Surtout, faites attention quand vous êtes dans une association de ne pas prendre part au vote. D'accord ? Alors, décision modificative numéro 1, budget de la ville 2020. La commune a déposé 2 permis de construire pour les gradins du football et pour la boucherie. Elle est donc redevable de la taxe d'aménagement, même les communes le payent. La taxe d'aménagement s'élève à 129 euros pour les gradins et 1119 euros pour la boucherie. Je vous propose donc cette décision modificative d'un montant de 1250 euros équilibré en dépenses et en recettes d'investissement. Qui est contre ? Qui s'abstient ? 4 abstentions. Service logement. Donc là, je vais laisser la parole à mon adjointe Alexa Dussol, qui va prendre ses délibérations et je ferai bien sûr le vote.
Je fais la CAPH ou d'abord la commission communale ?
Impôt direct peut-être, commission impôt direct avant, okay, oui. On va suivre l'ordre, puis la CAPH après.
Direct. Donc la commission communale des impôts directs. Donc dans chaque commune, il est constitué une commission communale des impôts directs composée de 9 membres dans les communes de plus de 2000 habitants, à savoir monsieur le maire ou l'adjoint délégué, président et 8 commissaires. Les commissaires doivent être de nationalité française, avoir au moins 18 ans, jouir de leurs droits civils, être inscrits au rôle des impositions directes locales dans la commune. Les commissaires ainsi que leurs suppléants en nombre égal sont désignés par le directeur des services fiscaux sur une liste de contribuables en nombre double dressée par le conseil municipal. Donc, monsieur le maire propose une liste de 32 personnes qui seraient susceptibles de composer cette commission communale des impôts directs.
Donc, comme disait Alexa, on doit proposer une délibération, une liste de 32 contribuables tritois ou directeurs des finances publiques qui désignera 8 commissaires titulaires et 8 suppléments pour la durée du mandat. Qui est contre cette délibération ? Qui s'abstient ? Merci. CAPH. Bon, après, j'ai une partie synthétisée, hein, si ça t'arrange, Alexia. Enfin, si tu as préparé un truc... comme tu veux.
Parce que c'est très long, en fait, la CAPH.
Bon, attends, je vais te donner ma partie.
J'en avais parlé lors de la commission pour la CAPH. Donc, en fait, c'est un partenariat avec la CAPH pour lutter contre l'habitat indigne. Mais sinon, j'avais préparé. Donc, je disais, c'était pour lutter contre l'habitat indigne. À confirmer le déploiement des outils de la loi Allure Élan. En fait, c'est une autorisation préalable de mise en location. Donc, tout propriétaire se doit de déclarer qu'il va mettre en location son logement. Ça me perturbe ton truc, mais non. Donc, la stratégie intercommunale de lutte contre l'habitat indigne a autorisé M. le maire à signer une convention de prestation de services avec la CAPH qui consiste en un accompagnement technique et administratif dans la mise en œuvre de procédures liées à l'habitat indigne.
Ça a été débattu lors des séances au niveau de la CAPH. Il y a des questions sur le sujet, non ? Oui, Nathalie ?
Oui, alors en fait, ça va se passer avec la responsable du service logement, moi-même, un technicien ou deux de la CAPH. Ça, c'est pour cette partie-là. Et après, il y a une partie donc avec la CAF, d'accord, qui, là, après, sera à débattre avec... Donc, en fait, on n'est pas seul et c'est un accompagnement, en fait, vous voyez, pour tout ce qui est technique. Donc, ça se fait avec Madame Annie Boutrouille. Voilà.
C'est bon pour cette délibération ? Donc, qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. Avant-dernier dossier, donc, service du personnel. Alors, on revient sur la filière sportive, création de 2 postes à l'éducateur des activités physiques et sportives, APS, pour la piscine. Alors, je me permets de reprendre votre question en centre TSL. La question, la voilà. À quels besoins devront répondre les 2 nouveaux postes d'éducateurs ? D'autant que le CRDC fait remarquer que notre commune a un taux effectif 34,3 agents pour 1000 habitants, très largement supérieur à celui de communes de la même strate de population. Bon, après, il faut aussi comparer ce qui est comparable dans ce genre d'analyse. Notre réponse, nous sommes passés de... Alors, il faut le savoir, la piscine n'est pas encore ouverte, mais ça ne devrait tarder. Nous sommes passés de 2, comme vous le savez, la piscine ancienne à 4 bassins. Il faut un éducateur par bassin. Donc, 4 éducateurs en même temps sur les bassins. Un sur chaque bassin, comme je viens de dire. On en avait abordé le sujet, il me semble, en commission sport, comme quoi il y avait des horaires d'ouverture, que ce soit plutôt le matin, tard le soir, entre les midis. Donc tout ça, ça fait une amplitude horaire qui est beaucoup plus importante par rapport à ce qui était mis en place sur notre ancien outil, la piscine. Et à la demande de la population, il y a beaucoup d'activités aquasport proposées. Il y aura l'aquabac, il y aura l'aquajogging, l'aquafitness, l'aquadouce, l'aquatraining. Les midis et les soirs, c'est ouvert pour ces séances-là. Donc, à un moment donné, il y a un besoin d'activité qu'il faut encadrer. Il y a une surveillance bassin à faire pour chaque bassin, donc 4. Et il y a une amplitude horaire qui ne permet pas de fonctionner avec le même effectif qu'il était par rapport à l'ancienne piscine. Je suppose que c'est clair comme réponse. Ça me semble logique. Alors, qui est pour ces postes ? Pardon, qui est contre ? On va aller comme ça. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Donc, ça répond à votre question et j'en suis très satisfait. Droit à la formation des élus. Information, l'article L21-23-12 du Code général des collectivités territoriales, CGCT, dispose que les membres du conseil municipal ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions. L'organe délibérant doit, dans les 3 mois suivant son renouvellement, délibérer sur le droit à formation des élus locaux et déterminer les orientations et les crédits ouverts à ce titre. Un tableau récapitulant les actions de formation des élus financées par la commune, et annexe au compte administratif. Il donne lieu à un débat annuel sur la formation des membres du conseil municipal. Les frais de formation constituent une dépense obligatoire pour la commune, à condition, bien sûr, que l'organisme dispensateur de la formation soit agréé par le ministre de l'Intérieur. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Donc, je vous invite à participer à ces formations. Création d'un emploi permanent cadre A, responsable pôle commande publique. Y a-t-il des questions sur ce sujet ? Qui est contre ? Oui, d'accord. Ça va répondre au rapport par rapport aux appels d'offres.
Juste une question peut-être technique, monsieur le maire. Comment se déroulera le recrutement de cette personne ? Est-ce que vous avez passé par le centre de gestion librement ou est-ce que
Je sais de quoi on parle, mais c'est vrai, c'est un peu technique. Donc je vais peut-être laisser, RH, monsieur Prouver, toute la procédure, hein, mais il n'y a pas de souci.
Merci. Alors, on a déjà procédé à la. Comment dire ? On a réceptionné déjà les demandes des différents candidats. On a déjà commencé à procéder à l'annonce au niveau du site du CDG 59. On a reçu une douzaine de candidatures. On a retenu 5 qui correspondaient au profil demandé. On a reçu les 5 candidats, c'était au mois de. C'était avant les vacances. Avant les vacances d'été. Et par rapport à ça, il y a une candidate qui est sortie du lot et c'est cette personne qui a été retenue par monsieur le maire, suite à l'avis du jury qui a reçu ces 5 personnes. Alors, il y avait Brigitte pour le personnel, il y avait la DRH, il y avait moi-même, il y avait Christine. Non, tu n'étais pas là. Il y avait Jean-Paul, il y avait Kamel, il y avait Malika et Anne-Marie. Disons qu'il y avait aussi les agents qui travaillaient sur les marchés publics, qui pouvaient poser des questions pertinentes sur le statut, etc. Et puis après, les élus, par rapport à ce qu'ils souhaitaient mettre en place au niveau de cette personne.
Alors, qui est contre ? Qui s'abstient ? Donc j'espère qu'on lui fera un très bon accueil, cette personne. Création d'un coordinateur. Et d'un coordinateur suppléant de l'enquête de recensement. Afin de réaliser les opérations de recensement qui vont ici avoir lieu l'année prochaine en 2021, nous devrons créer au minimum un poste de coordinateur et un poste de coordinateur suppléant. C'est pour le suivi du recensement qui sera fait sur l'année 2021 sur notre commune. Enfin, notre commune et d'autres, mais là, ce qui nous concerne, c'est notre commune. Qui est contre ? Qui s'abstient ? J'en suis, je ne sais plus. Convention d'adhésion au service de prévention du CDG 59. Je vous demande de renouveler notre adhésion au centre de gestion du Nord pour bénéficier de ses services de médecine préventif. Qui est contre ? Qui s'abstient ? La partie service technique portant acceptation d'une convention avec le SIDEGAV dans le cadre de travaux d'effacement du réseau électrique rue Gourdin. Le syndicat intercommunal de distribution d'énergie et de gaz de l'arrondissement de Valenciennes nous a octroyé un fonds de concours d'un montant de 126 307,73 euros pour les travaux d'enfouissement de réseau pour la rue Gourdin. Je vous propose d'accepter évidemment cette convocation et de m'autoriser à la signer. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Alors, on va venir aux questions en santé TSL. Pardon, le micro. Sur quel sujet ? On fait marche arrière. Ah oui. Allez, vas-y.
Assez vite sur le sujet. Là, je ne suis pas dans une histoire de débat. Moi, c'est
pas
plus
moi
des
qui ai pris tout le temps de parole. Hein.
C'est plus des questions techniques. Dans le rapport, il est précisé qu'effectivement, on a une situation financière confortable et qu'on n'assurait pas réellement le principe de sincérité. À un moment donné, j'ai vu en exécution l'excédent de recettes sur les dépenses étant significatif et récurrent. La Chambre considère que la situation financière de la collectivité lui permettrait d'envisager une réduction des taux d'imposition. Alors, je voulais savoir pourquoi, à un moment donné, ça n'avait pas été appliqué. Pourquoi ce choix ?
Alors, si j'ai bien compris la question, vous parlez de baisser le taux d'imposition sur la commune, c'est ça ? Vous anticipez une réflexion par rapport à une question que vous allez me poser par la suite, sachant que...
J'ai juste lu une phrase du rapport et...
Oui, il préconise.
Anticipation, je comprends pas. Anticipation par rapport à quoi ?
C'est quoi la question ? Allez-y.
Le rapport dit que apparemment, ça fait quelques années qu'on est excédentaire et que, comme c'est récurrent, on aurait pu envisager une baisse du taux d'imposition. Ma question est pourquoi, à l'époque, ce choix n'a pas été fait ?
Donc, à l'époque, ça n'a pas été fait, bien que ça n'a non plus jamais été augmenté.
Oui, ça, je suis d'accord. Bon. Okay.
Maintenant, cette question, on va revenir dans une de vos demandes, dans vos questions. On va parler d'une certaine taxe qui est des ordures ménagères.
Ah, d'accord. Okay.
Et depuis le début de mon mandat, on va dire... je ne vais pas aller directement sur cette question, mais vous verrez que la commission des finances pourra faire des propositions ou échanger qui va un peu dans le sens que vous êtes en train de nous solliciter.
D'accord.
Mais vous aurez un complément d'information dans le déroulé de vos questions.
D'accord, je comprends mieux. Je suis pas partie sur ça.
Voilà. Vous posez la question, je réponds. Vous avez d'autres questions peut-être ?
Ah non, j'en ai d'autres. Après, on parle de l'inventaire. Apparemment, ils nous demandent de faire un inventaire fiable et exhaustif. Donc ça, vous avez répondu sur le fait que c'était en cours. Maintenant, on a des projets qui sont des études qui sont lancées, notamment pour la boulangerie ou d'autres. Est-ce que ce nouvel inventaire va être fait avant la fin des études ? Est-ce que les études vont prendre compte de tout ça ? Parce que déjà, j'ai du mal à comprendre qu'on puisse lancer des études de faisabilité sur certaines choses si derrière, on n'est pas sûr de notre inventaire et de notre patrimoine.
Alors, les études, ça reste une étude. Après, de ce que vous me parlez précisément, vous savez, et je pense que vous en serez d'accord, on veut développer, ce qui n'est pas simple, garantie de commerce sur notre commune. On a un établissement qui a été mis en place, la boucherie, qui fonctionne très bien, où la population en est très satisfaite. Après, là, notre souhait, ce serait pourquoi pas d'avoir une bonne boulangerie sur notre commune ou faire venir d'autres commerces. Après, on sait où on va. Je veux dire, on voit très bien qu'on n'a pas de boulangerie. Enfin, on a une boulangerie, deux, trois dépôts de pain. Enfin, on ne sait plus trop ce qui se passe dans les commerces, certains. Mais cette réflexion-là n'empêche pas de pouvoir mener une étude pour pouvoir développer du commerce sur notre centre-ville.
Moi, ce que je voudrais savoir, c'est est-ce qu'on ne va pas encore se lancer dans des constructions si on a déjà de l'actif déjà construit, non exploité, qu'on pourrait exploiter ?
Alors, c'est une étude. où d'ailleurs les commissions vont participer, voir la population. Donc à ce moment-là, on pourra se poser les bonnes questions au bon moment. On a des vues sur des choses, on a des idées. Après, c'est vrai que l'étude pourra peut-être nous faire un complément d'orientation ou de décision par rapport à ce que nous, on pense, ce que vous allez penser et la population, ce qu'elle en pensera.
L'inventaire, vous pensez qu'il sera fiable quand ? Parce que là, apparemment, les services
sont déjà
en train de travailler dessus.
C'est pas quelque chose de compliqué. Je ne sais pas si M. Sirir peut répondre sur l'inventaire dans ce domaine-là, mais bon, c'est quelque chose qui va les... On sait quand même ce qu'on a.
Ah, deux. Là, vous m'entendez mieux, peut-être, sûrement. Oh, pardon. Bon. En ce qui concerne l'inventaire des bâtiments, il faut savoir qu'on a un rapport annuel directement sur la partie des mètres carrés assurés. Donc, les bâtiments, on les a tous répertoriés pour nous, notamment pour nos commissions de sécurité, pour entreprendre les commissions d'accessibilité. Donc, on a tout un patrimoine et dans le classement également des bâtiments. Troisième, première, cinquième catégorie. Donc ça, on a tout un inventaire. On a un inventaire, ce que représente exactement, je veux dire, en mètres carrés. Donc je dis, bon, nous, on le connaît, l'inventaire. Hein. On a un rapport d'assurance au niveau des surfaces. Je reviens simplement sur une étude. Quand on fait une étude, l'étude, c'est surtout pour savoir directement, faut-il, dans ces cas-là, optimiser et regarder quel bâtiment existant peut apporter tel et tel avantage, est-il directement à être amené à des modifications pour son utilisation ou se dire attention, là, c'est peut-être une autre orientation qui doit être prise, rénovation du bâtiment, extension du bâtiment ou bien peut-être construction de bâtiment. C'est les conclusions d'une étude. Et c'est pour ça que les études sont lancées. C'est pour essayer de mettre, je veux dire, de poser un postulat avant d'aller beaucoup plus loin. Donc, bien sûr, au niveau des inventaires des bâtiments, oui, on les a, on les connaît tous, on connaît les surfaces, on connaît leurs catégories, on connaît leur affectation, on connaît leurs problématiques au niveau des pathologies, et au travers de ça, bon, quand on dit on lance une étude, si on lance une étude, bien sûr, il faut regarder sur ce que vous possédez, est-ce que ce bâtiment, je vous dis, peut être rénové, amélioré, etc., et de mettre sur une page avantages, inconvénients. Et c'est bien les conclusions d'une étude qui vont dire là c'est bon ou là c'est pas bon. Est-ce que j'ai répondu à votre question ? C'est bon ?
Alors, je voudrais revenir sur toutes les petites erreurs qui ont été trouvées par rapport à tout ce qui était paye et services financiers. Donc, moi, je n'irais pas blâmer en disant que le personnel est incompétent. Par contre, qu'est-ce qui est mis en place pour que ça ne se reproduise plus ? Alors, je travaille dans ce domaine. J'attends juste un mot. J'espère que je vais l'entendre. Non, mais je blâme pas, je blâme personne. Mais c'est un qu'est-ce que vous allez mettre en place pour que ça ne se reproduise plus ? L'erreur est humaine.
Alors, je vais dire déjà régulariser, déjà, pour le premier mot, et suivi beaucoup plus strict. Formation, c'est déjà... on a déjà un plan de formation pour le personnel, c'est déjà en cours. Mais bon, on a de la formation régulièrement tous les ans. On a un plan de formation qui est mis en place en partenariat avec la CAPH et le CNFPT. Mais bon, cette année, on va dire que c'était un peu compliqué avec le coronavirus. Non, mais bon, ça, sincèrement, ce n'est pas non plus des erreurs phénoménales. Bon. Ouais, là, je suis d'accord, là, il y a eu un... Ouais. Non, là, je peux vous rassurer, le personnel va régulièrement en formation. On est souvent, quasiment tous les ans, il y a des formations CNRACL avec, pour les retraites, formations statutaires, que ce soit pour les payes ou au niveau des évolutions des carrières. On est régulièrement en formation, il n'y a pas de souci. Bah, disons que les process qu'on a mis en place, puisqu'on avait eu des petites carences, on va dire, maintenant, chaque fois qu'il y a un avancement de grade ou une évolution dans les indices du personnel, à chaque fois, il y a un contrôle rigoureux qui est fait à la base, lorsqu'on modifie les salaires, du moins. Les notes de frais, c'est-à-dire ? Non, là, c'est le même. On va dire qu'il y a eu un process qui a été mis en place. Ma responsable des services finances a fait un courrier aux agents leur demandant de prendre comme base soit MAPI, mais que tout le monde ait la même base au niveau des kilométrages, et maintenant il y a un contrôle rigoureux de notre part aussi pour savoir si ça correspond bien à la distance qui est vraiment parcourue. Les services vérifient maintenant à chaque fois. Disons que le contrôle nous a permis de régulariser les situations qui n'allaient pas au fur et à mesure. C'est-à-dire qu'on avait régulièrement des contacts avec le magistrat et la personne avec qui il travaillait. Et au fur et à mesure qu'on avait des problèmes qui étaient soulevés, à chaque fois, on mettait en place le process et on régularisait les situations. Je vous dis, au niveau des salaires, à chaque fois qu'il y a une modification d'un indice ou d'un régime indemnitaire, la DRH va directement avec la personne qui s'occupe des payes, avec elle dans la bécane, pour voir si l'indice est bien institué au niveau de l'indice ou de l'indice majoré, bon, que vous connaissez, et également au niveau des modifications salariales. Mais à chaque fois, c'est vérifié au fur et à mesure.
Bien, merci Charles pour toutes ces explications. Alors, je reviens aux questions. Donc, le Triscope, pourquoi avoir changé de prestataire d'imprimerie ? Alors, il faut savoir que la décision, c'est moi seul qui l'ai prise. Ne pas mettre en cause mon personnel vis-à-vis de ça. Je suis assez grand pour prendre une décision, même si les chefs de service ont un devoir de conseil et puis d'orientation, on va dire, mais la décision, c'est moi-même qui l'ai prise. Pourquoi j'ai fait ce choix ? J'ai fait ce choix parce qu'aujourd'hui, il faut quand même que la communication puisse être réactive. Et vous ne le saviez peut-être pas, hein, j'en veux à personne, mais avec l'imprimeur précédent, il fallait, quand on donnait le tirage de ce Triscope, il fallait 10, voire 15 jours pour l'avoir dans vos boîtes aux lettres. Une information qui arrive 15 jours après, pour moi, ce n'est plus vraiment d'actualité. Donc, il y a un côté réactivité par rapport à ça. Avec d'autres imprimeurs, nous sommes à 48 heures, ce qui est quand même plus raisonnable. Et le service est beaucoup plus réactif par rapport à ça. Après, je vais vite le passer parce que j'aime pas parler d'argent quand on parle des personnes en difficulté. Mais il faut savoir qu'ils étaient quand même 25% plus chers, mais à la limite, OK. Ensuite, il faut savoir que, mais ça, moi j'ai reçu les directeurs de Papier Blanc, j'ai reçu le responsable des ateliers, où là, les explications étaient claires entre nous. amicalement, on est parti. Enfin, il y avait une personne avec moi parce que je ne fais pas d'entretien seul. Hein. Il y a une personne avec moi où, bah, je veux dire, oui, ils ont bien compris le message. Ça n'avait pas l'air de les perturber plus que ça. Surtout qu'ils n'attendent pas avoir la communautrice allégée pour faire tourner leur imprimerie. Hein, il faut le savoir aussi. Donc tant mieux, tant mieux. Maintenant, il y a une question d'économie, une question écologique, parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, nous avons une imprimante photocopieur qui est quelque chose d'assez sophistiqué dans nos services communication, où au niveau location, ça nous coûte relativement cher, où au niveau des consommables, c'est pas très écolo et ça nous coûte relativement cher, où mon personnel, il doit être devant la photocopieuse pour tous les 20 impressions retirées pour qu'il n'y ait pas de bourrage. Moi, ce genre de prestation, et j'en ai parlé avec le responsable de l'imprimerie, de l'Ostrevent, ce genre de choses, c'est des choses qu'on doit faire chez eux, qu'on ne doit plus faire chez nous, parce qu'ils sont quand même mieux outillés que nous pour faire ce genre de choses. Donc, je parle de flyers, je parle d'invitations de fête des mères, je parle d'invitations de Noël, je parle des noces d'or, enfin, je parle de tout ce que l'on peut faire au niveau publication, impression pour les différentes manifestations qui sont sur la commune. Il y a aussi parfois des demandes d'associations où on essaye de faire plaisir quand on peut, sans trop non plus déborder sur toutes les choses qu'ils peuvent nous demander, parce que bah, plus on en donne, plus les gens en veulent. Donc il y a cette contrepartie qui est faite et qui a été expliquée, qui peut compenser la perte financière au niveau de l'imprimerie. Et après, depuis un certain temps, on se disait, c'est vrai que les services CAT travaillent très très bien, et on se donnait la possibilité sur le contrat, l'appel d'offres qu'on avait avec eux, parce qu'il y a un minimum et un maximum. Nous sommes loin du maximum de prestations qu'on demande par ces employés, ces équipes. Donc on revoit notre copie pour encore donner plus de travail, enfin donner une délégation de travail par rapport à ce service, pour pouvoir compenser la perte d'argent qu'il pourrait y avoir. Mais au bout du compte, on va s'apercevoir qu'ils seront beaucoup plus gagnants que perdants. On fait une compensation d'impression qu'on fait chez nous dans nos services, mais après, un imprimé fête des mères, on sait la date de la fête des mères, donc on peut ordonner un mois avant, ça pose pas de problème. Par contre, sur un triscope, il y a quand même des informations qui doivent être données régulièrement et qui doivent être rapides. Et à un moment donné, 48 heures avant, on sait encore modifier notre triscope. Donc c'est surtout une question de réactivité, mais je n'ai rien contre ces services. Bien au contraire, on a toujours été très sensibles à ce public, que ce soit des années que je suis élu, et on continuera toujours à les faire travailler. Donc, pour moi, il n'y a pas péril en la demeure par rapport à cela.
On se doute bien de votre sensibilité, monsieur le maire.
Oui, j'espère. Merci.
Il ne fait aucun doute. Par contre, sur la réactivité, je voudrais revenir. Dès les premiers triscopes, la question de la réactivité a été posée. La question a été posée par René Carpentier. Quelle est l'information dans le triscope qui revêt un caractère urgent? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Sur des questionnaires à la population, sur l'information sur la programmation du théâtre, voilà ce qui s'est passé dans le mois. Le maire de l'époque disait le triscope n'a pas de date de sortie. Le triscope de septembre peut sortir le 1er ou le 30 septembre.
Moi, pour avoir des remontées d'informations, mais déjà des mandats précédents, hein, vous aviez un triscope où on vous annonçait une assemblée telle date, et le triscope arrivait dans les boîtes aux lettres, et ça faisait déjà une semaine que l'assemblée était faite. Donc à un moment donné, on doit se mettre à jour régulièrement sur les informations qu'on donne à notre population, et pour moi, il y a quand même parfois des caractères d'urgence où il y a une communication qui doit paraître dans le triscope.
Ensuite, l'entreprise qui a été retenue, un chiffre d'affaires qui dépasse très largement celui des papillons blancs. Elle ne nécessitait nullement de récupérer ce marché-là. Il faut savoir que les personnes handicapées qui travaillent aux ateliers de l'Ostrevent ne sont pas des salariés, ne sont pas des handicapés, sont des ouvriers handicapés. C'est un statut complètement différent. Ils ne touchent pas à l'allocation d'être handicapés. Ils perçoivent un salaire d'ouvrier handicapé. C'est complètement différent. Ils ne sont pas fonctionnaires. Ils ne sont pas du privé. C'est une indemnité qui est versée partiellement par l'association familiale sur la projection des marchés en cours. Un triscope, c'est une rentrée d'argent mensuelle. C'est une pérennisation de l'emploi, c'est une stabilité de l'emploi. Ils n'en dépendent pas. Ça fait un sacré trou dans leur projet et dans leur, leur projection de travail. Croyez-moi.
C'est bon sur ce sujet ?
Non. Vas-y. En tout cas, par rapport au délai que vous nous annoncez, on n'a pas du tout les mêmes informations. On nous a dit que les articles étaient déposés le 15 et que vous récupériez le triscope le 23. Ça me semble des dates fixes. Et si tout le monde s'organise bien, voilà, c'est possible de faire sortir le triscope en temps et en heure. Et d'autant plus que c'est un mensuel. Donc, un mensuel n'a pas besoin de cette réactivité dont vous parlez. Ou alors, on choisit un autre vecteur d'information où on fait un tract qu'on passe rapidement dans les boîtes à lettres. Mais on ne peut pas compter sur le mensuel pour ce genre d'information. Et donc là, on parle de la réactivité d'un côté, mais moi, je voulais faire une remarque par rapport à la valeur informative de certains articles. Il y aurait d'autres remarques à faire sur le Triscope. Quand je vois la page 6 de ce mois-ci, une pleine page avec une énumération de d'activités dans les centres aérés, qui n'est pas passionnante à lire, hein, cette énumération. Il y avait autre chose à dire sur les centres aérés et peut-être rendre hommage à l'investissement des animateurs qui ont eu à faire face et à la crise Covid. Ils ont dû travailler avec le masque tout le mois et à la canicule. Ils ont dû faire face à la canicule. Donc, on parle de réactivité, mais... il faudrait aussi peut-être regarder de ce côté-là.
De même pour moi, je ne comprends pas cette décision incompréhensible, parce que durant toute la campagne, vous enfin, et votre équipe, vous avez vanté les mérites de l'humain d'abord et que la solidarité n'était pas un vain mot. Mais moi, je m'aperçois aussi que cette précision, enfin, que cette décision que vous venez de prendre va justement à l'encontre de ce que vous pouviez énoncer durant cette campagne. C'est un peu scandaleux de pouvoir mettre fin comme ça d'une façon unilatérale avec une association dont le seul objectif, la seule volonté, c'est justement de travailler au bien-être des autres et de travailler à l'insertion des travailleurs handicapés. Je ne comprends pas. C'est pour moi, c'est une décision purement libérale qui vient d'un maire communiste. C'est complètement incompréhensible. Incompréhensible.
Alors, question suivante. Où en est le GPO ? Sachant que lors de notre réunion de fin août, nous avons eu la grande surprise, enfin je reprends vos propos, hein, d'apprendre qu'ils ne s'étaient jamais réunis. Y a-t-il un bilan, nom, fréquence, lieu de différentes interventions réalisées, infrastructures relevées, perspectives pour l'avenir ? Donc Monsieur Prézot va pouvoir vous éclaircir sur le sujet.
Monsieur le maire, merci. Je vais vous faire le point sur le GPO. Alors, en raison de problèmes rencontrés dans les divers quartiers, particulièrement concernant l'opération Greffe, nous avons informé le commissaire en place à cette époque, le 25 mai 2020, le commissaire divisionnaire de Valenciennes, M. Courtecuisse, bien qu'un GPO avait été mis en place en tout début 2019 par M. Dominique Savary, en qualité de président de la commission quotidien et commission locale de sécurité et prévention de la délinquance. Le 22 juin 2020, nous avons rencontré le sous-préfet en mairie. Lors de cette réunion, nous lui avons fait part de nos problématiques de délinquance et de rodéo urbain dans divers quartiers de nos quartiers. Le 23 juin 2020, la commission de défense et sécurité civile s'est réunie en salle de conseil. Lors de cette réunion, une réflexion a été menée en vue de la constitution d'un GPO, un groupe de partenariat opérationnel. Le 30 juin 2020, le conseil municipal s'est réuni et a procédé au vote pour la vidéoprotection. Le 4 juillet 2020, organisation de rencontres citoyennes rue Casanova, Voltaire, Humanité, Charmille, Langevin et l'Abbé Mouton. Le 9 juillet 2020, création et constitution d'un GPO sur la commune ayant pour thématique l'incivilité du rodéo urbain pour les secteurs rue Voltaire, Humanité, Casanova, Langevin, Delory et Quartier des Artistes. Le 21 juillet 2020, le GPO s'est réuni avec des représentants dits référents de chaque secteur ci-dessus désigné. Le 7 septembre 2020, réunion avec Madame Véronique Parent, procureure de la République adjointe. Objet de la réunion, examen des requêtes suite à la lettre au ministre de l'Intérieur et l'article de l'Observateur en vue de la création d'un GLTD, groupe local de traitement de la délinquance. Durant la période d'août à la première semaine de septembre, mise en place de ronde par une société de gardiennage et de maîtres chiens dans le quartier des artistes de Poirier. Le 16 septembre 2020, réunion du GPO qui s'est réuni avec les représentants habitants du quartier pour faire le point des interventions menées par celui-ci depuis sa création. Du 11 juillet au 15 septembre, 64 contrôles routiers, 21 infractions au code de la route, 10 en ce qui concerne la vitesse, 135 personnes contrôlées dont 111 véhicules. Au vu des témoignages des incidents et requêtes menées, diverses ont pour des motifs des rodéos urbains et engagent des procédures administratives et judiciaires en cours. Il est rappelé que le GPO est limité dans ses compétences et que le GLTD, qui est en cours de création, restera l'instance administrative et judiciaire la plus haute pour enrayer cette délinquance. Ces prochains jours se tiendra une réunion pour la mise en place du groupe local de traitement de la délinquance en présence de Mme Véronique Parent, procureure de la République adjointe et du commissaire central. La mise en place d'un GLTD. Normalement, je pense que c'est ce qui sera mis en place. Enfin, on a pour objet de mettre justement ce truc-là en place. Quoi. C'est, par rapport au GPO, il sera plus actif.
GLTD, c'est un groupe local de traitement de la délinquance. Donc, on monte un degré au-dessus. Maintenant, les personnes interpellées, bon, le procureur, je ne connais pas beaucoup de communes qui ont des contacts comme ça avec les procureurs, mais je pense qu'à force de taper du poing sur la table, on a entendu, et j'espère fortement, d'ailleurs ça commence à se voir sur le terrain, surtout au niveau du quartier des artistes, il y a beaucoup plus de contrôles, beaucoup plus de passages de la police, que ce soit notre brigade motorisée ici à côté. Je veux dire, on est entendu et je souhaite fortement qu'on puisse régler ces problèmes de délinquance sur notre commune, non seulement délinquance, vitesse, rodéo. Je reconnais que ce n'est pas quelque chose de simple, même si je suis maire, je n'ai pas tous les pouvoirs et je ne peux pas agir à tout niveau. Donc je pense que d'avoir ces soutiens, que ce soit du commissariat du Valenciennois, que ce soit du sous-préfet qui nous entend aussi, que ce soit le procureur... J'espère que ça donnera ses résultats par rapport à ce qu'on souhaite dans nos quartiers.
On espère tous effectivement que ça finira bien par aboutir. Maintenant, qu'en est-il de la dimension de la prévention par rapport à ces soucis fréquents qui arrivent généralement à partir du printemps et qui éclosent fortement pendant l'été et qui finalement s'atténuent pendant l'hiver? Est-ce qu'il y a une réflexion sur des actions préventives, sur de la prévention?
Alors, je vois bien où est-ce que vous voulez en venir. Hein,
Non, ni plus ni moins qu'à votre programme. C'est annoncé dans votre programme.
À un moment donné, c'est plus la petite délinquance là, qu'on parle. Hein. Vous savez très bien, c'est maintenant un degré au-dessus et le GLTD, c'est justement le but et la finalité de tout ça. C'est parce qu'à un moment donné, il faut taper fort sur cette grosse délinquance pour moi. Après, quand on parle des petites délinquances, là, c'est un autre sujet et il y a des choses qui sont en réflexion pour pouvoir mettre des choses en place justement pour prévenir de l'avenir, on va dire.
Cela me fait plaisir qu'il y ait des choses qui sont en réflexion, mais là, ça fait bientôt 4 ou 5 mois que le mandat a commencé, et ça serait bien qu'on puisse voir quand même des débuts de solutions.
Donc ce sera discuté, et vous pouvez vous exprimer, hein, ce sera discuté en réunion de commission sécurité, il n'y a aucun souci là-dessus. On avance petit à petit. Autre sujet, donc la piscine. Pourquoi est-il si difficile de connaître les causes de retard d'ouverture ainsi que les avancées des différents travaux ? Moi, le premier, j'en suis un peu fort déçu parce que c'est un projet qui devait prendre 2 ans. On en est à la 3e année. Mais je vous rassure, bientôt les portes vont ouvrir et je vais laisser M. Robert Lagache faire un complément d'information sur le sujet.
Bon, voilà. À travers le centre aquatique et aussi à travers le Covid-19, la CAPH est toujours en cours de travaux. Bien sûr, il y a un challenge, bien sûr, avec le chauffage, avec les traitements d'air et les traitements eau qui sont en cours de finition. Il y a eu aussi la validation, bien sûr, par document de la commission de sécurité, ainsi que la validation aussi de l'accès à l'accessibilité. La ville, bien sûr, reste exploitant, bien sûr, dans l'ensemble des réseaux. Et ici, nous sommes dans toujours dans un cours de finition à travers un grand nettoyage dans ce centre aquatique. Et à titre d'information, je voudrais vous dire qu'il y a plus de 38 degrés.
Alors, j'aime pas donner des dates. J'aime pas donner des dates. J'aime pas donner des dates. Vous allez me le reprocher si on n'ouvre pas le jour même.
Non, mais on sait bien que c'est pas vous le maître d'œuvre non plus, mais est-ce que vous auriez une idée ?
J'ai une idée, mais c'est sous réserve toujours pareil, parce qu'on ne sait jamais. Bon, on parle du Covid, vous savez très bien ce qui se passe actuellement avec les salles de sport, les salles qu'on loue. Bon, voilà, c'est compliqué. Mais indépendamment de cela, j'ai un très très bon espoir. Je croise les doigts. On a prévu une ouverture, donc je vais le dire, le samedi 17 octobre, donc début des vacances scolaires. Sachant que, j'y tiens, on fera, comment ? Sous toute réserve, bien sûr, hein, parce que moi, je suis pas du genre à donner des dates. Je préfère vous dire on ouvre que donner des dates comme ça a été fait précédemment. Après, je souhaite fortement que tous les élus, on puisse aller ensemble avoir l'ouverture, voir le lieu, voir le site, ce qui permettra par la suite de faire l'ouverture à notre population. Et j'espère fortement qu'on pourra se tenir à ces dates et pouvoir, dans le temps, pouvoir faire bénéficier les personnes de cet outil, parce que pour moi, c'est un très bel outil. Ça a été très compliqué, mais je ne suis pas la maîtrise d'œuvre. Je veux dire, la maîtrise d'œuvre, c'est la CAPH. On n'a pas pu non plus avoir certaines informations parce que c'était pas notre outil. On n'avait pas la possibilité d'y avoir accès comme on le souhaitait non plus. Hein. C'est un outil qui était géré par la CAPH. On ne devrait pas tarder à avoir ses clés et puis là, on sera maître de l'outil. Par contre, où moi, j'ai toujours émis des réserves, c'est que je me suis dit, c'est comme quand on fait construire une maison, hein. Moi, s'il y a des imperfections, s'il y a des choses qui vont pas, je prends pas les clés, puis je chine pas comme quoi je prends l'outil. On a exigé au niveau de la CAPH d'avoir un outil conforme à ce qui était prévu. On a été très, 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 très exigeant par rapport à cet outil. Et moi, je veux un outil de qualité, je veux un outil qui réponde à ce qu'on a engagé comme argent, hein, c'est l'argent public. Et surtout les besoins qu'on a, enfin toutes les choses que l'on a identifiées, les besoins qu'on a émis. Et à un moment donné, il a fallu se fâcher pour pouvoir avoir l'outil comme on devrait l'avoir d'ici peu. Monsieur Lagache le faisait remarquer, nettoyage, oui, mais c'est pas qu'un simple nettoyage. Hein, quand X entreprises sont passées, il y a des choses qui n'ont pas été très bien respectées et ça, c'est inadmissible. Et moi, je ne prends pas un outil si à un moment donné, je dois faire sauter des carreaux, du carrelage, parce qu'ils n'ont pas été bien traités pendant les travaux. Donc, on aura l'outil et j'espère, et de toute façon, on y veillera à ce qu'on l'ait en conformité de ce qu'on souhaitait. Donc, c'est pour ça qu'au niveau date, oui, le 17, j'espère qu'il n'y aura pas une tuile qui nous arrivera dessus d'ici le 17, mais je serais content, et je pense que tout le monde serait content, qu'on puisse ouvrir les portes de cette piscine et en faire bénéficier nos administrés. Maintenant, je répète, c'est pas moi le maître d'œuvre. Je vais pas me dédouaner, mais j'avais pas toutes les mains, enfin toutes les ficelles pour pouvoir agir comme on aurait souhaité agir. J'en ai parlé avec la directrice. Il y a des activités qui sont en place. J'ai pas en tête hein, là, honnêtement, mais de toute façon, comme j'ai dit à Monsieur Lagache, et je pense que ça devrait pas tarder, j'avais demandé à la directrice du service des sports de faire une commission. Hein, c'est ça, Robert. Je l'ai vu cette semaine. Moi, je tiens à ce que les élus soient informés déjà non seulement la publicité qu'on va faire, comment on va la faire, les horaires d'ouverture, les activités, que vous soyez informés dans la commission sport avant l'ouverture de ce qui sera mis en place.
Il y aura des portes ouvertes ?
Portes ouvertes, pour moi, je dirais un mauvais souvenir si c'est une boutade de ta part. Portes ouvertes, non, parce que oui, tu sais très bien, on l'a faite. Hein. Maintenant,
c'était un chantier. C'était les portes ouvertes d'un chantier que vous avez fait.
Ouais, bon, on peut jouer alors sur les mots, mais terminé. Honnêtement, c'est bon. Les gens, je pense que portes ouvertes, eux, ce qu'ils veulent, c'est vraiment y rentrer, puis s'y baigner, puis profiter des activités.
Mais est-ce que vous avez exigé finalement une rampe pour descendre les personnes handicapées dans le bassin ?
C'est un échange qui sera abordé en commission, et oui, on a demandé. Mais on va vous l'exposer en réunion de commission par rapport à notre souhait.
On se réjouit tous de l'ouverture et puis d'aller faire une farandole à la piscine. On ira tous avec des chemises à fleurs. Et ça pourrait être sympa. Ce qui serait chouette peut-être, monsieur le maire, on a déjà discuté de la question sur les tarifs. J'avais pensé, en discutant avec plusieurs personnes, des nageurs qui viennent juste pour se délasser, se détendre entre midi et une heure, ils vont payer le prix d'une entrée pour un centre ludique et non pas pour une piscine de quartier ou pour une piscine de ville dans laquelle ils viennent juste faire des longueurs. Il y a une question, il y a un vrai problème pour la tarification. Si on pouvait en rediscuter dans la commission sport ou dans la commission finance, la même chose, la CAPH participe énormément à la construction de ce bâtiment, une tarification pour les tritois, une tarification pour les habitants de la CAPH et une tarification pour une troisième catégorie de personnes habitant un peu plus loin. Ça serait peut-être intéressant de rediscuter tout ça. C'était une demande. Et puis j'avais une autre demande à vous formuler. J'ai appelé une quinzaine de fois Monsieur Debailleux à CAPH. Je lui ai envoyé également 4 mails le dernier ce matin. J'aimerais juste savoir si vous avez donné une consigne pour ne pas me répondre.
C'est pas mon style. Monsieur Debailleux, je le connais pas plus que ça, mais je l'ai rencontré 2-3 fois, bien sûr. Alors lui, exactement, il est quoi ? Enfin, il est maître d'œuvre, mais je veux dire, il y a les architectes avec, enfin il y a un bureau, donc oui. Non, je n'ai pas donné de consigne à M. Debailleux pour ne pas répondre aux questions.
D'accord. C'est juste une question, parce qu'il ne me répond pas, il ne me rappelle pas.
Bon, après, on pose aussi des questions, on n'a pas non plus les réponses. Hein. Mais là, on passe un niveau au-dessus.
Merci.
Le dernier point, si je ne me trompe pas, la fameuse taxe d'ordures ménagères. Donc bah, là, je vais laisser la parole à Malika pour s'exprimer sur le sujet, sachant que je suis de tout cœur avec elle par rapport au vote qu'elle a fait. Hein. Je ne me dédouane pas.
Oui, merci, monsieur le maire. Donc, pour répondre aux interrogations des uns et des autres sur cette fameuse taxe d'enlèvement des ordures ménagères, il faut savoir que c'est une taxe qui est en discussion depuis déjà plusieurs années. Et jusqu'à présent, la CAPH a réussi à l'éviter. Oh, ouais, donc ça fait une vingtaine d'années aujourd'hui. Pour répondre globalement aux questions qui se posent, oui, une réflexion est menée par les élus de Trie-Saint-Léger quant à la façon de gérer cette taxe et d'avoir la possibilité pour les administrés, pour les tritois, à ne pas être trop impacté. On peut pas dire pas impacté du tout, mais ça, bien sûr, il faudra que l'on en discute ensemble et à la commission finances pour voir comment épargner nos administrés. Ça, pour faire aussi écho aux remarques qui ont été faites par rapport à la Cour des comptes, où on nous dit vous avez la possibilité, en substance, de baisser les impôts. Nous avons fait le choix depuis 1998, je crois, de ne pas augmenter. Et là, nous verrons ensemble comment on peut faire jouer l'ascenseur pour que les administrés ne ressentent pas trop cette taxe qui, il faut savoir, pose problème, il est vrai, questionne beaucoup, mais reculer, on peut reculer, mais à un moment donné, je pense que on ne pourra pas et oui, on n'est pas pour cette taxe, mais à un moment donné, on a suivi le mouvement. On était 86 à voter. 66 ont voté pour. Citry Saint-Léger avait voté contre. Elle aurait pu, c'est vrai, voter contre. Je dis pas le contraire. Elle aurait pu voter contre, mais la taxe est adoptée quand même. Citry Saint-Léger avait voté contre. Oui, elle est applicable à Trissin-Léger aussi, même si Trissin-Léger avait voté contre. Oui. On ne va
pas se voiler la face parce que ce dossier-là, c'est un dossier houleux depuis des années. Bon, c'est vrai que...
Si.
Je ne vais pas incriminer certains collègues de mon parti. Mais M. Bouquet, il y a le beau rôle dans cette histoire. Il vote contre, lui. Ça l'arrange bien, parce que de toute façon, dans les 15 non-votants, c'est tous les élus de Saint-Amand qui n'ont pas voté. Mais on sait pourquoi. Il faut aller... C'est pour ça qu'il y aura une explication, Samalika ne l'a pas dit.
De toute façon, il y aura une explication, il y aura une communication.
À la population.
Oui.
Mais reprenez le sujet de A à Z.
Non, c'est pas exactement ça.
C'est pas question pour ou contre, c'est qu'à un moment donné, il faut la payer cette taxe, parce que vous savez très bien que c'est pas que la porte du Hainaut qui doit tout supporter. La porte du Hainaut, elle fait beaucoup de choses pour ses administrés. Et à un moment donné, donc soit les contribuables ou soit la collectivité doit compenser cette taxe. Mais la taxe indirectement, les administrés la payaient pas. Mais il faut savoir que la ville l'a payée cette taxe. À l'époque, c'était avec le CIVOM. Il y avait une dotation qui était donnée au CIVOM pour payer cette taxe. Après, compétence, c'est revenu à la Pour du Hainaut, où la ville donnait une enveloppe à la Pour du Hainaut pour payer cette taxe, enveloppe que l'on va récupérer.
Mais c'est avant tout un acte politique. Et moi, je crois en une politique éducative. Cette taxe, elle aurait pu être incitative. Et pas la même pour comment ça, comme ça. Là, il y a des. Alors, la CAPH a mené une politique, et c'est bien Monsieur Bocquet, sous Monsieur Bocquet, que ça s'est fait, pour encourager les gens à avoir des poulaillers, pour encourager une politique zéro déchet, et maintenant, on met la même taxe pour tout le monde. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'on fasse ou pas des efforts, on paiera tous la même chose. Il y a un problème, un véritable problème de santé environnementale sur notre territoire. La Sieved, elle augmente la capacité de son incinérateur. Moi, j'ai des élèves de 18 ans qui souffrent de bronchite chronique alors qu'ils ne fument pas. Alors moi, je vous dis, il y a un gros problème de pollution sur notre territoire. Il serait grand temps que les politiques s'en chargent. Il y a de nombreuses communes qui aujourd'hui payent une taxe incitative en France et on aimerait bien en faire partie. Là, on prend encore du retard. Moi, je me demande vraiment si on nous méprise pas, nous, habitants de la CAPH, en prenant des décisions pareilles.
C'est compliqué d'assumer son vote. Je suis d'accord avec toi, Malika. C'est compliqué d'assumer son vote. Non ? Je crois, dans le propos que tu annonces, je ne suis pas très sûr, mais ce n'est pas très grave. Moi, j'ai prononcé 4 pages parce que j'étais fermement contre une mesure injuste qui prenait en compte l'aspect économique. C'est essentiel. Il faut savoir d'où vient l'argent. Il faut pouvoir payer ce ramassage. On est d'accord. Mais on a un intérêt suprême, l'écologie. Si tout le monde paye la même chose, alors on va se dire, qu'est-ce que je m'embête à trier mes déchets? Qu'est-ce que je m'embête à acheter ou pas du plastique? Qu'est-ce que je m'en kikine à faire attention à ce que je dépense et comment je dépense mon argent? Mon bulletin de vote, c'est mon billet de 10 euros. J'ai déjà dit 50 fois, mais je vais encore le redire. À un moment donné, c'est comme ça qu'on doit fonctionner. Qu'est-ce que cette taxe veut dire? Je paye, donc je peux jeter ce que je veux. Donc j'alimente l'incinérateur d'Ouchy-les-Mines. Où est la pédagogie de la taxe? Il n'y en a pas. Où est l'effort sur l'écologie? Il n'y en a pas. Quel est le bénéfice direct de la taxe? Rétablir l'équilibre sur le territoire. Les dernières communes qui ont intégré la CAPH payaient déjà cette taxe. Les autres communes ne la payaient pas. Il fallait rééquilibrer les choses. Ok, il faut discuter d'une taxe. Deuxièmement, la taxe est décidée en début de mandature. Au niveau politique, c'est un peu moyen. Hein. Ça veut dire qu'on prend la décision la plus compliquée au début de mandat, et puis ensuite, on va faire des petits cadeaux à la population. On peut réfléchir ensemble, hein, si vous nous le permettez, sur comment faire absorber cette taxe par la population. Soit on se dit, ça sera un cadeau du conseil municipal ou un cadeau du maire à la population.
Ce sera discuté en commission finance, et Christophe, et je pense que tu en fais partie, donc ça tombe bien.
Mais si je peux venir, parce que j'ai un travail aussi.
Après, c'est autre chose. Incitatif, mais on peut en débattre, hein. Mais je sais, dans certains pays, peut-être communes, où l'incitatif, ben, ça fait que tu as des dépôts sauvages qui se font un peu partout, parce que si c'est au poids, si c'est... Enfin, moi, j'ai appris des choses comme ça. Ou même les gens ne mettaient plus dans leur poubelle, ils mettaient dans la poubelle du voisin parce que c'était payé au poids, des choses comme ça. Mais on peut en débattre longtemps de cette histoire.
La taxe va servir à un nouveau produit qui est le ramassage, entre autres, et essentiellement le ramassage des déchets verts.
Service et perdurer dans les traitements des ordures ménagères.
Les motifs de la taxe ne sont pas de faire diminuer les déchets. À partir de là, il faut rediscuter de la taxe.
Parce que le premier impératif, c'est celui-là. Et puis, on peut aussi sanctionner hein, ceux qui mettent leurs déchets n'importe où. Parce que, bah oui, mais on peut aller loin comme ça. Hein.
Moi, j'aimerais, hein, parce que quand vous voyez à l'entrée de
LME, il y en a. Ouais.
Où on doit mettre un dispositif. Mais pendant la période de confinement, où il y avait, ça devait être une entreprise, je suppose, qui déposait toute l'amiante comme ça à l'entrée de tri. Mais à un moment donné, on ne peut pas être à tout coin de rue. Et il y a eu combien de dépôts sauvages, non seulement pendant le confinement, et là, je ne sais pas pourquoi, ça se calme.
Mais c'est vrai c'est peut-être là qu'il faut mettre les caméras.
À un moment donné, il n'y avait que ça, des dépôts sauvages.
Oui. Oui, on pourrait les mettre là, les caméras, peut-être. On en ferait bon usage, au moins. Et puis, il n'y a pas que les particuliers hein, qui polluent. Il n'y a surtout pas que les particuliers. Il y a aussi les supermarchés. Il y en a beaucoup sur notre territoire. Donc, ce sont des pollueurs. Ils doivent être les payeurs. Et nous, on ne doit pas payer pour eux, finalement.
Bien, merci. Tout est dit. Donc, je lève la séance. Merci à vous. Une bonne soirée à tout le monde et à très bientôt.